Déclaration d'Aigoual. La forêt du massif de l'Aigoual est une forêt dans les nuages, qui par beau temps regarde la mer ou l'océan, et par temps brumeux, ceux qui s'y aventurent. Comme les feux d'artifice du 14 juillet, que l'on voit par dizaines depuis là-haut, les déclarations que vous allez entendre témoignent, comme une fête, des liens différents et pétillants que des hommes, des femmes et des enfants nourrissent pour cette forêt. Aventurons-nous à déclarer la forêt d'Aigoual comme on pourrait le faire d'un nouveau-né, puisqu'elle est très jeune, autour de 120 ans, et qu'elle a été baptisée forêt d'exception il y a peu. Au cœur du parc national des Cévennes qui veille sur elle, nous allons partager avec vous son histoire exemplaire et un état de ses lieux sylvestres. Nous verrons la façon dont elle est appréciée du public, étudiée aussi, notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et enfin entretenue. C'est l'Office national des forêts qui s'en charge en grande partie. Nous allons entendre des paroles de contemplation vibrante, s'incarnant parfois en actes artistiques, comme pour les balcons de l'Aigoual, ce parcours d'art dans le paysage. Seront évoquées aussi des visions d'avenir face aux défis climatiques. Je suis Clémentine Magiera et je vis en lisière admirative de cette forêt. J'ai recueilli à votre intention pour la filature du Mazel, tiers-lieu culturel en vallée de Valerogue, commanditaire de ce projet, les témoignages dont vous allez écouter des extraits. Ces déclarations d'Aigoual se ramifient en plusieurs branches. Déclaration de naissance et d'alliance, déclaration de panacée publique, déclaration au martelloscope, déclaration de revenus des revenants, déclaration de changement de domicile vivant. Et enfin, déclaration d'art et d'amour. Déclarons ensemble la forêt ouverte, ouverte aux expériences, aux connaissances et aux rêveries. Branche 3, déclaration au martelloscope.
Alors du coup Clémentine, moi je suis Jessica Ramière, je travaille pour le Parc National des Cévennes et je suis technicienne accueil et sensibilisation. Alors c'est un grand mot pour désigner les diverses missions que j'ai qui sont toutes centrées autour de l'animation. Que ce soit l'animation grand public, l'animation scolaire, l'animation de journées thématiques, l'accompagnement des communes aussi sur l'organisation de journées sur la biodiversité, sur la forêt, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, j'ai choisi de venir sur ce lieu-là. Donc je t'ai emmenée jusque cette jolie forêt qu'on a sous les yeux, une jolie forêt d'une hêtraie sapinière. On est sur le site du lac d'Épise, parce que c'est une parcelle sur laquelle on a travaillé conjointement avec l'ONF pour mettre en place tout un dispositif d'éducation à l'environnement pour faire comprendre la gestion forestière aux enfants et même aux adultes, jusqu'aux élus, jusqu'à des gens qui peuvent être un petit peu spécialisés. Et cette parcelle, ce lieu-là, on l'appelle, c'est un nom un peu barbare, mais on l'appelle le martelloscope. Et donc on va rentrer dans cette parcelle que je vais te faire découvrir, on va s'imprégner un petit peu de cette ambiance, et je vais t'expliquer un petit peu voilà, les différents ateliers qu'on peut faire, comment ça s'organise, en sachant qu'on passe une journée complète avec une classe, par exemple, juste sur ce petit bout qu'on a devant nous, et que quand les élèves repartent, ils ont complètement compris, normalement, hein, avec leur filtre à eux, mais ils ont compris comment on fait pour gérer la forêt de manière à avoir du bois, parce qu'on en a besoin, mais aussi à préserver la biodiversité. Je crois que 80% de la forêt de l'Aigoual est publique, sous administration de l'Office naturel des forêts.
De l'ONF.
On est en cœur de parc. Donc en cœur de parc, dans la charte du parc national, on a un enjeu qui est d'avoir une gestion durable de la forêt. Et en même temps, on a des enjeux aussi de préservation de la biodiversité. Donc on concilie tout ça et c'est pour ça qu'on a des conventions de gestion avec l'Office national des forêts. Moi, je parle vraiment côté Gard, côté Lozère, je connais moins comment ça se passe. Je sais qu'il y a quelques petites nuances. Mais en tout cas, voilà, côté Gard, on a ce travail-là main dans la main pour avoir cette gestion durable et le plus respectueux, le plus vertueux possible.
Et alors pourquoi ça s'appelle martelloscope ?
Pourquoi ? Parce que l'exercice final qu'ils vont faire dans l'après-midi, dans le déroulement de ces journées, c'est du martelage. Le martelage, c'est une action que font les techniciens de l'Office national des forêts, hein, là on est en forêt domaniale, pour déterminer les arbres dans une forêt à couvert continu, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de coupe blanche, hein, on ne va pas couper toute la parcelle et puis replanter après derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est que la forêt se régénère naturellement. Donc on va sélectionner des arbres tous les 10 ans qu'on va couper, et qui vont être, bon, voilà, ça va être exploité. Et la sélection de ces arbres s'appelle le martelage. Donc c'est vraiment une action, là les techniciens de l'ONF le font tous les ans. Et donc voilà, on explique ce principe-là aux élèves. Le martelloscope, lui, ici, il existe un réseau national des martelloscopes, donc il en existe plusieurs en France, qui sont surtout à destinée de futurs techniciens forestiers, c'est-à-dire pour leur apprendre ce métier-là, et cette action-là de leur métier. Mais nous, ici, on l'a vraiment orienté à vocation pédagogique. Et son histoire est intéressante. À l'époque, c'était Jean Séon qui avait déjà initié ce travail-là avec l'ONF. Et nous, on l'a repris en 2020 avec tout un groupe d'étudiants en troisième année d'AgroParisTech. Donc, c'est une école d'ingénieurs forestiers qui est basée à Nancy. Donc, ces étudiants sont venus nous aider à mettre en place tout ce dispositif, tant sur la collecte des données, parce qu'il faut qu'il fallait qu'on sache chaque arbre, quel volume de bois il peut faire, etc. Voilà, on avait besoin de données bien particulières sur la parcelle. Et ils nous ont préparé aussi un déroulé d'animation. C'était une trame que nous, on a fait évoluer par la suite. Et on a travaillé avec eux pour mettre en place ce martelloscope. Et notre objectif, c'était vraiment qu'il soit à destination d'élèves de collège. Donc vraiment, un niveau, on a tablé sur du niveau 5e. Et ça, c'est unique en France. On est rentré un petit peu dans cette parcelle et déjà autour de nous, alors c'est assez clairsemé, les feuilles sont déjà tombées, hein, on est mi-novembre, mais ça y est, on rentre dans l'hiver. Et autour de nous, rien qu'autour de nous, on a déjà plein de choses à dire sur cette forêt. Peut-être que tu repères que les arbres ont des espèces de griffures. Ces griffures correspondent à des numéros parce que chacun des arbres de cette parcelle qui fait un diamètre supérieur à 17,5, donc il faut quand même qu'il soit un petit peu gros, est numéroté. Et quand il est numéroté, ça veut dire qu'on l'a, on a tout son pédigré. On sait exactement quel est censé, quel volume de bois il peut produire si jamais on le coupe, etc. Ça, c'est le travail justement que ces étudiants avaient fait. Tu remarques aussi des traits de peinture. On a des traits blancs en alternance avec des traits bleus. Puis si on continue notre regard encore plus loin, on va voir du blanc, etc. Tout ça, ce sont des couloirs. Couloirs qu'on a désignés et ces couloirs correspondent à ce qu'on appelle des virées. Et ce sont ces virées qu'empruntent les techniciens forestiers. Quand ils font cet exercice de martelage, ils se mettent en parallèle, de manière à se voir, et chacun a sa virée, et chacun dans sa virée va sélectionner les arbres qui sont destinés à la coupe sur le prochain passage. Donc on a ces marques-là, et puis on en a encore une autre qui est devant nous, et qui là nous intéresse encore plus. On a un marquage jaune, avec un trait jaune qui a été fait à la peinture, tout autour, et un triangle également, avec une petite étiquette. Dessus, tu vois, on a écrit « arbre à conserver », avec un numéro, et si tu regardes bien le petit dessin, on voit un pic. On voit la silhouette d'un pic sur cette petite étiquette. Pourquoi ? Parce que là, c'est un arbre à loge. Un arbre dans lequel le pic noir a créé une loge pour faire ses petits et qui ensuite a été utilisé. Donc s'il est numéroté comme ça, c'est qu'il a déjà été utilisé. A été utilisé par la chouette de Tegmalm, qui est une petite chouette forestière dont les mâles chanteurs vont commencer un petit peu plus tard dans l'hiver à sélectionner des endroits et puis à nous faire un très beau chant. Et donc cette loge peut être utilisée pour la reproduction. Donc voilà, ici tout autour de nous, on a des arbres qui sont numérotés et on a aussi des arbres où on veut attirer l'œil parce que ceux-là, on souhaite les conserver. Et c'est un travail, en fait, c'est cette parcelle, finalement, c'est un peu le miniature de ce qu'on fait aussi au niveau gestion forestière sur le massif, en cœur de parc, où on va, nous, agents du parc, passer dans les parcelles et identifier ces arbres qui ont un intérêt écologique. Alors, il n'y a pas que les arbres à loge. Si on se retourne encore un petit peu, on voit, par exemple, là, on a une vieille chandelle. Donc, c'est un arbre qui est mort, hein, mais sur lequel on va voir plein de trous de pic. Alors, non pas des trous, pas des loges cette fois-ci, mais là, c'est le pic qui est venu s'alimenter. On en a un très beau qui est un petit peu plus loin aussi. Et en fait, si on regarde bien, il y a plusieurs arbres comme ça qui sont vraiment d'intérêt écologique. Certains vont être porteurs de lichens, donc des lichens qui sont indicateurs de vieilles forêts. En fait, tous ces milieux, toutes ces choses-là, on les appelle des dendromicrohabitats. Ce sont vraiment des ressources de biodiversité qui sont liées au fait que le sol est en forêt, le milieu est en forêt depuis des années. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans la gestion forestière, où on ne fait pas de coupe rase, où on va justement prôner plutôt la régénération naturelle.
Il était une fois une petite graine qui était dans la terre. Le lendemain matin, la pluie a dit « Viens, petite graine, sors !»« Non, 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 je ne vais pas sortir, je reste dans mon lit tout chaud. » Et le lendemain matin, là, le soleil a dit « Viens, petite graine, sors !»« Non, 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 je ne vais pas sortir !» Le lendemain matin, le soleil et la pluie, il a dit « Viens !» Petite graine, sors de l'or, il y a de l'or. Du coup, elle a dit, d'accord. Et après, elle est sortie, et après, elle a fait tomber ses glands. Et après, le lendemain matin, le soleil et la pluie a dit, petite graine, viens, sors dehors, il y a de l'or. Et là, après, elle est sortie. Et après, elle a fait des fois, elle les a tombées.
Il était une fois une petite graine.
Voilà, donc là, on est devant un énorme sapin. Tu vois, c'est vraiment un arbre qui est assez conséquent. Et en fait, on voit deux marques. Une marque qui est à hauteur de poitrine. Qui a été fait à la hache, hein, avec le marteau forestier. Et tu vois ici, on voit comme un sceau. Parce que de l'autre côté de ce marteau-là, il y a un sceau sur lequel on va voir AF, c'est administration forestière. Ça veut dire que le technicien de l'Office national des forêts qui est passé ici, il a identifié cet arbre pour qu'il soit coupé. Donc il y a une marque ici à hauteur d'homme, pour qu'il soit bien vu par le bûcheron qui va venir couper. Et ensuite, on en a une autre au sol, qui, elle, reste sur la souche, pour que si jamais il y a un contrôle, bah, cet arbre a été coupé, est-ce que c'était vraiment le bon? On peut vérifier, parce qu'il y a la marque ici. Ça, c'est le vrai martelage. Nous, on le fait faire de manière fictive aux enfants. Donc effectivement, une fois qu'ils ont pris connaissance de tous les enjeux, de comment on fait pour gérer la forêt, eh bien on les met dans ces couloirs et on a simplifié un petit peu le travail parce que c'est quand même pas évident. On leur délimite un petit peu le regard parce que il n'y a rien de plus ressemblant qu'un arbre par rapport à un autre, hein, quand même. Donc on leur délimite un petit peu le regard autour d'eux et on leur fait faire cet exercice. Ok, là on a 15 arbres devant nous à peu près, lequel on va couper, sachant qu'il faut qu'on essaye de sortir tant de volume de bois, qu'on préserve la biodiversité aussi, qu'on fasse attention à ce que ça crée une touffe de régénération, voilà, etc., etc. Et puis on voit si collectivement, à la fin de ce travail sur la parcelle, on peut rentrer les données sur informatique, est-ce qu'on arrive vraiment à répondre à l'objectif initial ou pas? C'est vrai que la découverte de la forêt, c'est une thématique qui est traitée en éducation à l'environnement, très facilement. Elle est même traitée par les enseignants de manière autonome. Ils n'ont pas forcément besoin de nous pour amener les enfants à la découverte d'une forêt. On a tous été à un moment donné se balader dans la forêt, en tout cas les gens qui sont sur notre territoire ou en vacances, etc. Donc, cette sensibilisation, on l'a. Après, ici, on est face à un public aussi quand même de gens qui sont habitués à venir chercher des champignons, certains sont enfants de chasseurs, etc. Donc c'est quand même un milieu pour certains qu'ils appréhendent régulièrement. Par contre, on laisse souvent tomber, au bout de la fin du primaire par exemple, on laisse un peu tomber cette approche-là, parce que sur le programme du collège ou quand on grandit un petit peu, on est moins sensible, on découvre un petit peu moins ces aspects-là. Et je trouve ça intéressant en fait de leur permettre à ce moment-là de pousser la réflexion pour vraiment comprendre l'enjeu de demain, en fait. De comprendre que oui, on a du bois à la maison, on en a besoin, d'où vient ce bois, comment il a été coupé, qu'est-ce qui a été fait, et de comprendre que c'est en lien, en interaction avec tout un tas d'autres réflexions qu'on a, qu'elle soit économique, qu'elle soit de préservation, qu'elle soit sociale aussi, parce que la forêt, c'est un espace de loisir. Enfin voilà, qu'on essaye de concilier tout ça. Et cet outil ici, le martelloscope, on l'a aussi testé avec des élus. Parce que, on a des élus qui viennent un petit peu de tout horizon. Certains maîtrisent mieux le sujet que d'autres, mais en tout cas, on leur a fait faire cet exercice. Et le fait de se mettre dans la peau d'un gestionnaire forestier, on comprend des choses. On ne le vit pas de la même façon que quand simplement, nous, on vient se promener avec notre regard à nous. Donc on a vraiment une approche qui est différente. Et c'est pour ça que je voulais t'amener là. C'est un lieu un peu magique, parce que, ça fait une demi-heure qu'on est là, ou un peu plus, et puis on a intégré. Hein. il n'y a pas de bruit. On est vraiment dans cet environnement et le soleil commence à décliner, mais aussi parce que tout cet aspect pédagogique qui passe complètement inaperçu, si on ne le sait pas, ça aussi c'est important. Il y a ce petit marquage sur les arbres, mais le but c'est pas de trop impacter. Je pense qu'à terme il peut vraiment marquer les esprits. Et alors justement à ce propos-là, comme cette parcelle que tu vois ici dont on vient de parler, elle passe à la coupe cette année, parce que même si c'est un martelloscope, il faut quand même que la forêt vive, sinon les résultats seraient faussés si jamais on le marquait pas. L'année prochaine, on va pas pouvoir remarteler fictivement, puisque les arbres n'auront pas eu le temps de grandir. Donc on a décidé de travailler une deuxième parcelle qui est à proximité, sur laquelle on fait venir aussi tout un groupe d'étudiants qui arrivent là au 1er décembre et qui vont nous faire le même travail qui a été fait ici, de recensement et de prise de données, qui vont aussi nous travailler des processus d'animation qui vont un petit peu plus loin et qui vont aborder tout ce qui est zone humide. Parce qu'il y a une petite zone humide qui est adossée à la forêt et c'est très important les zones humides. Donc on voulait aussi pouvoir profiter de ces journées-là pour sensibiliser les élèves à cette notion-là. Et donc du coup, on va travailler cette deuxième parcelle et aller plus loin. Et dans le cadre de ce travail-là, les étudiants vont aller interroger les élèves qui ont pu bénéficier d'interventions les années précédentes. Et ça, c'est intéressant, ils vont voir ce qu'il leur reste en fait, de ce dont ils se souviennent. Alors si ça se trouve, c'est juste une sensation, parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont ramassé un cèpe ce jour-là, parce qu'ils ont retenu que l'importance de la lumière, ils ont peut-être retenu qu'un seul élément, mais déjà ça serait gagné. Et on a hâte de voir un petit peu ce que ce retour d'expérience va donner. De toute manière, le lac d'Épise, à proprement parler, en fait, a été créé sur une zone qui était tourbeuse, paratourbeuse. Il y a quelques tourbières vraiment très caractéristiques sur le massif, sinon on a plutôt des zones paratourbeuses. Donc c'est pas réellement tout le fonctionnement d'une tourbière, mais on a quand même ces zones humides, et ces zones humides sont très importantes. Oui, de toute manière, on est en milieu qui prend beaucoup de précipitations, on le voit chaque année, donc cette eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc c'est traversé par tout un tas de fossés, de réseaux, de milieux, et parfois l'eau stagne un petit peu plus, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de zones humides. Et ça, c'est intéressant aussi en forêt, parce que ça fait partie à proprement parler de son fonctionnement. Même si on ne bouge pas et qu'on essaye d'être discrète, pour l'instant, on n'a pas vu encore grand monde. Alors oui, dans cette forêt, on va voir tous les habitants. Ça peut passer par tout un tas de petits oiseaux aussi, mais de plus gros mammifères qu'on connaît tous. Donc on pourrait tout à fait avoir un sanglier qui passe un petit peu plus loin, ou un cervidé. Donc ça peut être un chevreuil ou un cerf qui sont présents ici et qui d'ailleurs peuvent mettre à mal en fait la croissance de la forêt. Ils viennent consommer les jeunes pousses et parfois ça peut être problématique. Et après, on a tout un cortège aussi d'insectes, de petits invisibles finalement, mais qui sont essentiels à la décomposition et au fonctionnement de tout le cycle de la forêt. Ouais.
Parfois j'entends des oiseaux, parfois je vois des trous de sangliers, parfois je vois là où des biches se sont couchées avec leur faim. Je vois des traces de cerf. Parfois, j'aime bien prendre l'arbre et regarder. Et je prends un tout petit peu de la mousse dessus. Et je regarde s'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, je vois des toutes petites bestioles, en fait, qui se trimballent dedans. Et qui, en fait, se mettent bien dedans, comme des genres de petits fils. Et ils se cachent. Et au-dessus, c'est comme le faux gazon. Sauf que c'est taillé tout petit. Et quand tu le touches, c'est tout mou parce qu'à l'intérieur, c'est vide, c'est creux. Et moi, en fait, faire tout le temps un bouquet à ma maman avec les fleurs. Mais des fois, il trouve une bête dans des troppeurs et il fait « Ah !» Enfin, il lâche la main trop vite.
Il y a des insectes qui ont 8 pattes, qui n'en ont pas du tout, qui ont 6 pattes et qui piquent, qui volent, qui ne volent pas. Pour moi, les insectes, c'est des êtres qui sont imaginaires.
Moi, j'ai du mal à attirer toujours le regard en fait vers certaines espèces parce que la biodiversité ordinaire, elle est tout aussi intéressante. Si je dois m'attarder à aller sur une jolie petite espèce, on va pouvoir parler de la Rosalie des Alpes, par exemple, qui est un insecte dont la larve est xylophage, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir de bois mort. Et sa particularité, du coup, c'est que, comme tous les insectes xylophages d'ailleurs, c'est que quand elle va être à l'état adulte, qui est beaucoup plus éphémère, hein, ça dure une saison, c'est très court, elle est bleue, à dominante bleue, avec des taches noires. C'est un longicorne, hein, donc ça a un corps un petit peu en longueur et vraiment des très grandes antennes sectionnées. Et le bleu, en fait, dans les espèces, il est peu commun. On le retrouve assez peu. Donc arriver à trouver une espèce bleue et en voir une dans la nature, ben c'est toujours c'est intéressant. Et la Rosalie des Alpes, on peut en trouver hein, sur des billots de bois qui ont été coupés, etc. Parce que la larve a pu se développer dedans. C'est quand même pas ultra commun. On a la chance d'en avoir sur le massif. Il y a d'ailleurs une enquête nationale hein, qui recense un petit peu là où on peut en trouver. C'est quand même assez sympa, c'est joli. Et quand on en voit une, on s'en souvient. Un lichen, c'est l'association en fait d'un champignon et d'une algue. Et on a la chance en fait d'avoir des lichens sur cette forêt de l'Aigoual et notamment sur les parcelles qui vont être en forêt ancienne. Qu'est-ce que c'est ? Ces parcelles-là, c'est quand en fait on a un couvert forestier qui est le plus ancien possible, même si les arbres qu'on a sur cette parcelle-là sont tout jeunes. Hein, donc on se réfère aux plus vieilles données qu'on a, c'est les cartes qui datent de Napoléon et qui déterminaient que sur cet endroit-là, on avait de la forêt. Donc ici, on est un petit peu sur un petit bout de forêt ancienne d'ailleurs. Ça a toujours été en forêt depuis maintenant 150 ans. Ce qui a permis en fait l'apparition, parce que c'est vraiment un féodé aux forêts anciennes, de certains lichens, dont certains sont vraiment magnifiques. Un lichen, en fait, on en voit tous hein, sur les troncs des arbres, sur les cailloux, etc. Mais moi, j'invite vraiment les gens à prendre une petite loupe. Et aller regarder à la loupe. Et à la loupe, c'est magnifique. Souvent, ça a des couleurs qui sont un petit peu cachées. Des fois, on peut juste les asperger avec un tout petit pulvérisateur d'eau. Hop, juste comme ça. Et vloup, là, hop, ils se réveillent. Un peu comme si on leur a donné un peu d'humidité. Donc, vloup, ils s'étalent, ils s'étirent. C'est vraiment magnifique. Et on a des lichens, notamment, qui vont avoir un peu l'aspect d'une grande feuille de salade. Voilà, c'est des lobaria et c'est vraiment indicateur en fait de forêts anciennes et c'est des lichens qui sont vraiment à protéger quoi. Il y en a ici. Puis si tu regardes bien, on a aussi beaucoup d'arbres qui sont étêtés, surtout les conifères, donc plutôt les sapins. Et pourquoi ? Parce que ici on a notamment des neiges de printemps. Tu vois, on en a un petit là, derrière, là, celui-là, il doit avoir une 20-30 ans, hein, parce qu'il pousse quand même très lentement, le sol est plutôt pauvre. Et les neiges de printemps, en fait, sont très collantes, et donc ça devient très lourd, et hop, ça casse la cime des arbres. Donc on a beaucoup, en fait, de conifères comme ça qui sont étêtés, et qui, donc, vont avoir du mal à repartir.
Les sapins avec du blanc dessus, j'adore ça, c'est tellement beau. Je sais pas, ça me fait effet. Pas ordinaire, j'adore. Et il y a quelques endroits où des fois il n'y a pas de neige, alors qu'il neige des fois et tout.
Une année, le 16 mai, je me suis réveillée, il y avait un grand soleil, il y avait de la neige. Et la neige au mois de mai, c'est complètement incongru. Et c'était tellement beau parce que d'habitude, la neige, quand il y a de la neige, les arbres n'ont aucune feuille, donc on a l'habitude, les arbres avec leurs branches noires. Et là, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre et j'étais à un mètre d'un arbre avec des toutes petites feuilles vertes, les petites feuilles vertes du mois de mai de l'Aigoual, c'est-à-dire elles sont encore très petites, et de la neige par-dessus, et le soleil, et les jonquilles en dessous qui sortaient de l'herbe, et c'était juste magnifique.
On est devant un sapin qui présente en fait plein de trous, on dirait des meurtrières. Et finalement, en fait, bah, c'est simplement le pic qui est venu s'alimenter. Donc, cet arbre, il présente des fragilités. Hein, il a été étêté, il n'est pas en très bonne santé. Donc, il est colonisé par des insectes, c'est tout à fait normal. Et ce sont ces insectes-là bah, que le pic noir va venir rechercher. Et donc, pour ça, il va comme ça se mettre sur le bord du tronc et taper, creuser pour arriver à en extraire ces insectes.
Ils vont creuser comme un marteau piqueur avec leur bec et ça tape et très rapide, comme une mitraillette.
Je suis passée et j'ai vu un oiseau s'envoler. J'ai vu que c'était un pic noir parce que déjà il était grand, il avait un long bec et il avait le crâne rouge. Oui, ça tape les arbres jusqu'à ce que ça fasse un trou et après ils vivent dedans. Mais après quand ils partent, ben, les chouettes elles viennent dans ces trous pour y vivre.
J'aime bien les chouettes. Parce que ça chasse la nuit, j'aime bien la nuit. Et c'est trop marrant. Parce que ça peut faire sa tête peut tourner à 360 degrés, c'est trop marrant. Il peut tourner sa tête comme ça.
Cette petite chouette, elle est assez formidable. C'est une chouette qui est pas très très grande et qui effectivement va nicher dans ses loges. Donc elle fait aller une 10-15 cm de hauteur, hein. Elle est pas plus grande que ça. Et là, donc c'est le mâle en fait qui appelle. Alors c'est une chouette dont on connaît tous le chant, parce que c'est le chant qui est utilisé notamment dans les séries américaines quand on veut faire entendre qu'il y a une chouette. Voilà, qui a une chouette qui ulule quelque part. Donc c'est je vais pas vous le faire là, mais c'est un ululement qu'on connaît tous. Et donc c'est le mâle qui est chanteur et qui va appeler la femelle. Donc les chants démarrent à peu près, allez, de début janvier à mi-février, fin février, quelque chose comme ça, en fonction des conditions météo. Et donc le mâle va appeler la femelle. Et si le couple se forme, il peut y avoir une portée effectivement qui va se faire donc directement dans ces loges-là, avec plusieurs petits bébés chouettes hein, finalement qui vont se développer et qui vont prendre leur envol un peu plus tard au printemps. Voilà. Et donc chaque année, nous au niveau du parc, on est simplement sur un recensement de présence-absence. Donc on vérifie on a des couples chanteurs, enfin des mâles chanteurs déjà. On passe un hiver vérifié. Une fois qu'on a identifié s'il y a des mâles chanteurs, après on repasse pour identifier s'il y a eu un succès de reproduction. Donc est-ce que vraiment il y a des loges qui sont occupées pour la nidification et après est-ce qu'il y a eu une éclosion. Donc ça, on le suit un petit peu de loin. Mais on peut passer aussi à la fin du mois d'août. On grimpe aux arbres, donc on a des agents qui sont spécialisés et qui grimpent aux arbres pour récupérer les restes dans les loges et où on va trouver les coquilles d'œufs, les restes de nourriture, de bols alimentaires éventuellement, parfois des cadavres aussi puisqu'on a certains qui ne survivent pas, etc. Et ça nous permet d'avoir une traçabilité et d'identifier les arbres avec les loges qui ont pu être utilisés dans l'année ou qui potentiellement pourraient être utilisés les années précédentes, etc. Et ça, ce sont des indices importants en termes de gestion. Là, on le voit en gestion forestière, mais ça peut aussi avoir un impact sur de la gestion plutôt de l'accueil du public. Comme par exemple, si on a un trail nocturne qui veut s'organiser, si on est en période où on a une édification sur un arbre qui est à proximité d'un sentier où on sait qu'on va avoir plusieurs coureurs qui vont passer, même si ils courent simplement, ils vont pas ou alors on va avoir une manifestation sportive un petit peu plus rythmée, ça peut avoir un impact. Donc là on peut orienter en disant non, là on préfère pas que vous passiez là parce qu'il y a un enjeu. Donc c'est notre responsabilité aussi au niveau du parc national d'être vigilant à ça et d'essayer de concilier les usages. Tegmalm, alors c'est Tengmalm. C'est une petite chouette de montagne, on est sur la limite sud de sa répartition. Il n'y en a pas, de toute manière on est sur le sud du Massif Central, donc on la retrouve dans le Massif Central, mais on est vraiment sur la partie la plus méridionale, quoi.
Pour vérifier s'il y a véritablement nidification, les techniciens, c'est notamment les techniciens du Parc National des Cévennes, ils vont passer dans les secteurs en question, et ils vont s'intéresser plus spécialement, alors c'est surtout des hêtres, aux hêtres qui sont porteurs de cavités et qui ont un cercle de peinture jaune autour d'eux et puis une petite plaquette avec un numéro qui permet de les suivre individuellement. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gratter le tronc, à la base du tronc, sous la loge, Et puis, si la chouette de Tegman met là, il y a une chance. Elles le font pas toutes, elles réagissent pas toujours toutes, mais en général, elles réagissent au grattement et puis elles vont sortir la tête. Elles vont sortir la tête de la cavité, quoi. Parce qu'elles se disent qu'il y a peut-être un prédateur, quoi. Il y a peut-être une martre qui passe dans le coin, qui peut monter avec ses griffes, même sur des troncs assez lisses, quoi. Et donc, c'est pour vérifier que ce soit pas un prédateur. Et puis, elle se trouve, c'est encore l'agent du parc, c'est pas grave. Et du coup, elles rentrent dans leur cavité en général.
Effectivement, elle est totalement nocturne. C'est rapace nocturne, mais sinon la majorité des espèces est crépusculaire, donc on va les retrouver tôt le matin ou tard le soir. Et c'est pas forcément des moments où on est en forêt. C'est très calme. Tu vois, on n'a pas 15 écureuils qui sont passés, on n'a pas 15 oiseaux qui chantent non plus. Moi je trouve que ça petit à petit les années passent et c'est de plus en plus calme aussi, quoi. Tu vois, il n'y en a pas 15 lézards qui sont... Bon, il fait froid. Mais tu vois, même au printemps, on n'a pas 15... Au printemps, tu vas avoir des oiseaux qui chantent, ok. Mais sinon, tu vois pas non plus 50 écureuils. Quand t'en vois un, t'es content. Tu vois pas plein de lézards partir. L'autre jour, on a trouvé une grenouille agile, juste là avec les jeunes. Bon, t'en vois une grenouille, quoi. C'est pas non plus... Alors, c'est une espèce forestière, hein, qui est complètement dans son milieu. Là, il fait trop froid aujourd'hui, hein. Il vaut mieux qu'elle soit cachée. Mais c'est quand même pas... La tranquillité, quoi.
Des enchantements.
Ouais, un petit peu, ouais. C'est pas être pessimiste, mais c'est un constat, quand même. Ce qui est fondé simplement par un sentiment. Bon, même s'il y a des choses qui le corrèlent, mais voilà. On est face à deux arbres. On a quand même deux sapins, ce sont deux sapins, et qui ont la particularité d'avoir un tronc qui n'est vraiment pas du même volume, vraiment pas de la même grosseur, mais figure-toi qu'ils ont exactement le même âge. Celui-ci, qui est juste devant nous, et celui-là. Alors on le sait précisément pourquoi, parce que tu vois les trous qui restent ici, les étudiants qui avaient travaillé en 2020 ont fait des carottes dans les arbres. Donc c'est un peu le même principe que les carottes glaciaires. Hein. On va réussir à récolter comme une paille, en fait, à l'intérieur de l'arbre, et on va pouvoir compter les cernes qui correspondent, en fait, à la croissance de chaque printemps. Ils ont à peu près 46-47 ans, ces deux arbres-là. Alors effectivement, ils n'ont pas eu la même croissance parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Quand on amène les jeunes ici, eh ben on les fait essayer de comprendre quelle est leur histoire, pourquoi, comment c'est possible. Et pour ça, eh ben il nous suffit de lever la tête. Et en forêt, on a tendance à faire le contraire parce qu'on a toujours peur de trébucher, parce que il y a toutes ces branches, c'est hyper important pour la biodiversité. Hein. La forêt, souvent on nous dit la forêt elle est sale, mais la forêt on la nettoie pas. C'est justement toutes ces branches et toutes ces feuilles qui vont constituer la matière organique et qui vont petit à petit se décomposer en matière minérale et qui vont constituer les sols. Alors les sols sont très pauvres, alors si en plus on enlève tout ça, là on n'aura plus rien. Donc voilà, mais moi j'invite quand même les gens à lever la tête et en fait en regardant bien la cime de ces arbres, on comprend, tu vois, celui-là, il a eu ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, il a été étêté et c'est pour ça qu'il est reparti en double branche. Donc ça a beaucoup ralenti sa croissance, hein, parce que du coup ça a été une épreuve pour lui. Et tandis que celui-là, au même moment, lui il s'est dit super, je vais pouvoir aller gagner la lumière. Et donc il est monté et il a réussi à s'imposer. Et donc à prendre la lumière par rapport aux autres, donc sa croissance est beaucoup plus favorable, tandis que l'autre, non seulement il a vécu un gros stress, et en plus il a eu du mal à aller chercher la lumière. Et sans lumière, on n'a pas tout ce qu'on connaît sur la photosynthèse, on n'a pas toute cette croissance. Ici, tu vois, là on est en milieu d'après-midi, dans pas longtemps en fait il va faire nuit, bien avant en fait que le soleil ne se couche, parce que on est le soleil a du mal à percer. Et pour que quand on gère cette forêt, pour que y ait des petites pousses qui arrivent à grandir, il faut absolument laisser rentrer des touffes de lumière. Donc justement, quand on va faire cet exercice de martelage, il va falloir sélectionner des arbres à couper, aussi en pensant à la tâche de lumière que ça va pouvoir faire, et donc à ce qu'on va appeler une tâche de régénération, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on est quasiment certain qu'il va y avoir des petits qui vont réussir à pousser. Et ça, c'est vraiment très important, parce que si on ne clairsème pas assez non plus, on ne va pas avoir cette régénération, donc ça ne va pas pouvoir repartir.
Dans la forêt, tu ne peux pas trouver que des arbres, des mousses et des choses comme ça. Tu peux trouver, par exemple, des sortes de pierres, tu peux trouver de l'Amazonie, tu peux parfois trouver des fossiles. Et même parfois, tu peux trouver... Ce qui est très 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 rare de trouver une pierre soleil. C'est une pierre en fait qui a un peu la couleur du soleil et qu'on appelle la pierre soleil.
Est-ce que le soleil arrive à rentrer dans une forêt?
Non, parce que le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne.
Mais quand même, ça rentre. Hein? Ça rentre un peu.
Parce que le soleil, en fait, il reste à un seul endroit et c'est lui qui fait le jour et la nuit. Quand il a beaucoup d'arbres, ça recouvre tout et c'est tout sombre. Et c'est là où les loups habitent.
Ce qu'on fait avec les élèves le matin, dans nos petits ateliers, c'est qu'on essaye de leur faire prendre conscience à travers des petites expériences de tous ces éléments-là. À la fois de la biodiversité, on va parler de leur faire découvrir tous ces petits habitats. On leur fait prendre conscience aussi de l'importance de la lumière. On les fait en fait déambuler dans la forêt avec un miroir posé sur leur nez, mais le miroir est vers le ciel, et on les fait regarder dedans, et en fait ils voient en progressant, le couvert de feuilles, d'aiguilles aussi, mais aussi les endroits où il y a plus de lumière. Et puis quand ils regardent à leurs pieds, il y a des petits arbres. On leur fait prendre conscience aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ce bois? Alors, nous adultes, on le sait, ce bois, on l'exploite, on en a besoin pour se chauffer, on a besoin pour faire des meubles, on a tout un usage en fait autour du bois. Bon, les enfants, parfois, ils n'ont pas encore toutes ces connaissances, donc on parle aussi de la production, puis on essaye de comprendre, sur un arbre, si on le coupe, comment on l'exploite, qu'est-ce qu'on en tire, est-ce qu'on en tire la même qualité de bois, des racines jusqu'à sa cime ou pas, etc. On essaye de comprendre le fonctionnement global de cette forêt. On entend souvent que la forêt, c'est notre poumon. Pourquoi? Parce que les arbres, ils font le contraire de nous. Nous, on absorbe de l'oxygène, du dioxygène, et on rejette du gaz carbonique, du CO2. L'arbre, lui, il va faire le contraire. Pour justement arriver à synthétiser du glucose qui va être nécessaire à sa croissance, il va récupérer du CO2. Et il va relâcher, il va donc stocker du carbone en fait, et il va relâcher simplement le dioxygène. Donc quelque part, l'arbre permet d'épurer un petit peu tout le gaz carbonique que nous on rejette à travers toutes nos activités humaines et notre respiration aussi. C'est vrai qu'avec le changement climatique, souvent les jeunes ils s'interrogent, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une notion qui est très vulgarisée, on en parle beaucoup avec eux, même dès le plus jeune âge, et ils nous disent alors du coup, comme on rejette de plus en plus de CO2, ça veut dire que les arbres ils se portent d'autant mieux. Alors ça n'a pas été faux ça. Effectivement, ce qu'on a pu observer, c'est que, alors là c'est vraiment plutôt des études, c'est les chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet-là, ça n'a pas été fait ici, mais ce qui a pu être observé, c'est qu'effectivement au moment où vraiment on a eu un pic de rejet de CO2, la croissance se portait très très bien. La croissance des arbres, la forêt se portait très très bien. Mais par contre, ça s'est tassé un petit peu. Et aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes, ce réchauffement climatique et tout ce changement climatique. Parce que on a des espèces qui ne vont plus forcément être adaptées au milieu où on se trouve. On est quand même sur des conditions qui évoluent très très vite. Alors qu'une une forêt, elle met plusieurs centaines d'années quand même à vraiment s'installer, devenir mature, etc. Alors ce qui est intéressant, et avec des élèves un petit peu plus grands, on essaye de coupler aussi toutes ces réflexions et ce travail qu'on fait ici avec des rencontres avec des chercheurs. Et on a notamment un chercheur du CNRS, du Centre d'études d'écologie fonctionnelle de Montpellier, qui vient chaque année nous faire une conférence à la cité scolaire du Vigan et qui présente l'impact du changement climatique sur la forêt de l'Aigoual. Ce qu'il en ressort, c'est que les territoires de montagne sont les plus sensibles au changement climatique. Parce qu'il y a cette question d'altitude, et finalement, on a une répartition, on le voit très bien, quand on monte en voiture ou quand on va prendre les 4000 marches et qu'on va monter, on a une répartition de la végétation qui se fait par couche, par étage en fait. On parle d'étage. Et finalement, le sommet de l'Aigoual, qui est à 1565 ou 67 suivant les personnes, finalement, le petit sommet de l'Aigoual, il a changé à partir de 1500 mètres à peu près, cette zone de pelouse là. Donc on imagine qu'avec un réchauffement climatique, avec une augmentation des températures, on va avoir tous les étages qui vont remonter un petit peu. Le hêtre va apparaître un petit peu plus haut. Mais par contre, le chêne vert qu'on a en bas, lui, il va remonter encore plus. Et peut-être que dans les milieux extrêmement chauds de garrigue, on va voir apparaître d'autres essences, d'autres espèces qui vont s'implanter, qui sont encore plus habituées aux milieux très chauds. Et donc ça va remonter comme ça. Mais ce qui veut dire qu'actuellement, cette zone de pelouse subalpine qu'on a au niveau du sommet de l'Aigoual, comme elle est sur un battement de 60 mètres, c'est rien. Et elle, par contre, elle est quand même vouée à disparaître. Parce que finalement, il y a tout qui remonte un petit peu. Voilà, donc le gros problème du changement climatique, c'est aussi une banalisation du milieu, une banalisation de la biodiversité, et on perd beaucoup, voilà. On ne sait pas ce qu'on gagne, parce que pour l'instant, c'est, voilà, est-ce qu'on va gagner des nouvelles espèces qui vont venir s'installer, mais en tout cas, voilà, on perd énormément de choses. Et on voit aujourd'hui déjà disparaître des espèces, ouais. Ici, en fait, on est devant plusieurs arbres assez majestueux, des grands hêtres, dont plusieurs sont des arbres à conserver parce qu'ils abritent de la biodiversité, sont notamment des arbres à loge, etc. Et moi, j'aime bien, en fait, me poster jusqu'un petit peu plus haut, le terrain est en pente, et observer, en fait, comment les jeunes vont appréhender cet endroit-là. Alors, ils savent que bah, dans ce groupe d'arbres, dans cet espace-là, on appelle ça une petite cellule, bah, ils doivent en couper au moins un. Et lequel, alors ? Bah, ils partent un petit peu dans tous les sens, mais en général, ils n'ont pas bien vu, parce qu'il faut lever la tête. Là, les arbres, ils sont vraiment très hauts. Il faut lever la tête et puis voilà, essayer de prendre conscience de « Ok, lequel est intéressant ou pas ?» Alors, je les renvoie et puis ils font le tour de l'arbre et puis ils essayent de chercher, de comprendre celui-là, pourquoi il ne faut pas le couper, etc. Et à un moment donné, en général, il y en a toujours un ou deux qui captent et qui voilà, lèvent les yeux et voient bah, qu'on a une superbe loge à un endroit où arrive à détecter qu'il y a la petite étiquette qui dit « arbre à conserver » ou comprend que peut-être il y a potentiellement un lichen intéressant. Et là, hop, effectivement, il y a tout cet émerveillement dans les yeux, et c'est là où je trouve que cet élève en général, hop, il veut le dire, et puis après il se retourne et il se dit non, je le dis pas, parce qu'il faut laisser les autres chercher, et on attend en patience, et c'est lire en fait toute cette découverte dans leurs yeux, et là moi je trouve que c'est le moment le plus épanouissant quand on, voilà, moi ça fait 25 ans que je fais de l'éducation à l'environnement, je fais de l'animation nature, etc., et plus les années passent, et plus j'ai un degré d'exigence qui est important, et voilà, d'arriver à faire prendre conscience par l'émotion. Voilà, après toute une journée de travail où on a essayé d'inculquer plein de choses et voilà, qu'ils ressentent quelque chose, ben là je pense que c'est gagné quoi. J'aime bien ce moment-là.
Et puis l'odeur, c'est. Ah là, c'est. Ça sent trop bon.
Ben ça sent l'humidité et la sève un peu des arbres.
Ça a l'odeur de la pluie parfois quand c'est humide, aussi de la forêt quoi, genre on sent les écorces, on sent la nature quoi, on sent tout ce qui nous entoure, et quand on touche l'écorce par exemple, le lichen, là on touche le lichen avec l'écorce et tout ça, on se dit l'arbre il est jeune ou il est vieux et tout ça, on peut sentir.
C'était la troisième déclaration des Gouales, déclaration au martelloscope. Merci aux enfants des écoles publiques de Trèves, Cambrieux et La Nuéjolle, à Jessica Ramière du Parc national des Cévennes, à Rebecca Clémenceau, accueillante au gîte d'étape de Cap de Côte, et à Valère Marsaudon, ingénieur forestier à l'ONF et photographe naturaliste. Ces déclarations des Gouales, glanées d'octobre 2023 à juin 2025, sont une commande de la filature du MASEL, pôle d'innovation territoriale, soutenue par la DRAC Occitanie, le département du Gard, la communauté de communes Cosse-Aigoual-Cévennes Terre Solidaire et la fondation Carasso. En partenariat avec le studio Raw Power Records et Radio Larzac. Une création de Clémentine Magéra, conteuse et autrice illustratrice, avec le concours aérien des oiseaux de l'Aigoual. Pic noir, chouette de Tegmalm, chouette chevêche, mésange noir, citelle, troglodyte mignon, grimpereau des bois, pinson des arbres, roitelet huppé, rouge-gorge, qui illumine ce bosquet de podcasts.